Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons dans les Actes des Apôtres. Et tout le long de ce livre, de cette étude du livre des Actes, et les faits qui nous sont rapportés par l'auteur de ce livre, on parle de Luc, ces faits-là nous invitent de façon irrésistible à nous rappeler de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit quand il était sur terre. Il a dit « Je bâtirai mon Église ». Il continue aujourd'hui encore à bâtir son Église, mais le livre des Actes des Apôtres nous donne une image de cette construction que des fois on se rend pas compte, on oublie que le Seigneur est à l'œuvre par son Saint-Esprit. Les textes que nous allons voir ce matin vont nous rappeler que vraiment Dieu continue de bâtir son Église, même si c'est pas évident pour nous quand on lit. Le texte de façon individuelle, mais quand on prend le temps de regarder cela, nous sommes invités à voir, et on le voit vraiment, le Saint-Esprit qui bâtit l'Église. Le Seigneur, par son Saint-Esprit, il fournit les ressources nécessaires, n'est-ce pas? Il donne les personnes, et tout ce qui s'apprend pour bâtir ce bâtiment, pour ériger ce temple spirituel, l'Église locale, l'Église universelle. C'est lui qui donne toutes les ressources pour cela. Et c'est lui-même qui maintient, qui garde cet édifice-là en vie. Le Saint-Esprit, en premier lieu, nous l'avons vu au jour de la Pentecôte, au début du livre des Actes des Apôtres, est donné à tous les disciples. Et c'est un Saint-Esprit qui est donné aux disciples. Il est aussi le coordonnateur, n'est-ce pas, de tout ce projet de Dieu. Le Saint-Esprit coordonne les activités. Il choisit des hommes, il choisit des femmes. On se rappelle d'un couple, Ananias, Priscille, Aquila, c'est Priscille qu'il a utilisé. Et toutes ces personnes-là, il les a équipées pour le travail qu'il veut les confier. Depuis plusieurs semaines, la caméra est encore branchée sur l'apôtre Paul. Et la semaine passée, nous avons vu avec notre pasteur Richard, et l'apôtre Paul qui faisait ses adieux à l'église qui lui est chère, son église qui est à Éphèse. Nous savons que l'apôtre Paul, maintenant, dans son troisième voyage missionnaire, sa destination, c'est Jérusalem. Il veut arriver à Jérusalem, si ça lui est possible, pour le jour de la Pentecôte. Et nous avons vu qu'au lieu, il ne voulait pas rester à Éphèse. Et pour cela, il est arrêté à Milet. Et là, il a fait venir les anciens de l'église d'Éphèse. Et c'est sur le littoral à Milet qu'il donne des enseignements à ses frères, ses anciens. Il leur rappelle que l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est lui-même qui les a établis comme anciens sur cette église-là, comme pasteurs, comme bergers pour paître le troupeau que le Seigneur lui-même s'est acquis par son propre sang. L'Église est précieuse aux yeux de Dieu. C'est son Église, c'est son corps. Il a versé son sang pour cela. Et l'apôtre Paul a rappelé à ces anciens-là la grande responsabilité qu'ils avaient en tant que serviteurs du Seigneur de prendre soin de ce troupeau-là. Malheureusement, après cette rencontre avec les anciens, il a dû continuer son chemin. Il veut continuer parce que sa destination, c'est Jérusalem. Il se sépare de ses frères-là. Et nous voyons dans le chapitre 20, verset 37, nous lisons « Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. » Alors, c'est une séparation déchirante, n'est-ce pas, de voir l'apôtre Paul qui avait tissé des liens assez profonds avec cette église qu'il a lui-même formée, qu'il a enseigné pendant 3 ans avec eux. Il leur a enseigné tout le conseil de Dieu, c'est ce qu'il dit à ces anciens-là. Et maintenant, il va devoir se séparer d'eux et s'en aller vers, continuer sa route vers Jérusalem. Et c'est là que nous continuons ce matin et je vous invite à lire le texte dans Actes des Apôtres, du chapitre 21. Nous allons lire les versets 1 à 14. Actes des Apôtres, le chapitre 21, versets 1 à 14. Nous lisons comme suit. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Verset 7. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Et étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Habacuc descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem. Ils le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors, il dit, « Que faites-vous ? En pleurant et en me brisant le cœur, je suis prêt, moi, non seulement à être lié, mais encore à être mis à mort, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Et comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Seigneur, merci pour ce texte que tu as inspiré toi-même. Et puisses-tu nous enseigner, Seigneur, ce matin, ce que tu veux, la leçon que tu veux nous apprendre ce matin en tant qu'individu, en tant que collectivité, pour notre bien, pour l'avancement de ton œuvre. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, dans le chapitre 21 que nous venons de lire, là, nous voyons Paul, nous voyons Luc, présent, parce qu'il parle du « nous » maintenant. Paul et ses compagnons de voyage, ils sont maintenant séparés. Comme nous l'avons dit tantôt, ils se séparent des frères de Milet. Et avec l'âme, hein, c'était pas facile. Mais Paul... qui voulait, comme nous l'avons dit, arriver, dont le but c'était d'arriver à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte. Il a repris chemin, il a donc embarqué dans un bateau, et de là, de Milet, il se rend à Kos, et il passa une nuit à Kos, et le lendemain, il reprend le bateau pour aller à Rhodes, et de Rhodes, il se rend à un endroit que nous appelons, qui est appelé ici Patara. Alors, d'après ce que les commentateurs nous rapportent, c'est que c'était une ville portuaire où il y a beaucoup d'activités commerciales. On parle de Patara. Alors, à partir de cette ville de Patara, Paul va prendre le bateau, il va prendre un plus gros navire pour traverser la Méditerranée pour se rendre jusque à Tyr. Alors, c'est là que nous trouvons Paul maintenant. Quand il est arrivé à Patara, il fait un petit séjour là et il trouve un navire qui faisait la traversée de la Méditerranée vers la Phénicie. Et il se rend à Ptolémaïs, mais c'est seulement après avoir passé 7 jours à Tyr. Alors, ils sont arrivés à Tyr, nous pouvons le voir. Hein? Le verset nous dit, quand nous fûmes, ils sont passés à côté de la Syrie, hein, de la côté, ils sont arrivés à Tyr. Et nous comprenons qu'à cause de la grandeur de ce bateau-là, qui avait des cargaisons, une très grande cargaison, ils ont dû passer une semaine, ça prenait une semaine à peu près, là, 7 jours, pour que le navire puisse décharger sa cargaison. Mais pendant ce temps-là, le temps que Paul attend, parce que le navire ne va pas arrêter à Tyr, il va aller plus loin, mais ça prend... le navire, comme nous l'avons dit, il veut débarquer sa cargaison, parce que nous allons parler de beaucoup d'activités commerciales. Alors, pendant ce temps d'attente de 7 jours, Paul, au lieu de tourner le pouce, le connaissant Paul, il se met à chercher des frères. Il se met à la recherche des frères pour savoir s'il y avait une église à Tyr. Et effectivement, Paul, il a trouvé une église à Tyr. Alors, on parle d'une ville très, très portuaire de Ptolémos. Non, pas de Ptolémos, mais il part de Patara pour arriver à Tyr. Et Tyr aussi, c'est une ville assez de grande renommée, comme nous l'avons dit, au niveau de son commerce. Alors, dans cette ville-là, qui est considérée comme la capitale de la Phénicie, Paul se met à chercher des frères pendant son séjour, parce qu'il doit passer 7 jours dans cette ville-là. Et effectivement, comme nous l'avons dit, Paul, il trouve des frères, mais ce ne sont pas cette église-là, ces chrétiens-là, n'ont pas été évangélisés par Paul. C'est pas Paul qui... Paul n'a pas fondé d'église à Tyr. Mais il était convaincu, hein, notre apôtre Paul, qu'il trouverait des frères dans cet endroit-là à Tyr, et il en a trouvé. Et d'après ce que nous pouvons lire dans Actes chapitre 11, verset 19 à 22, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie. Alors c'est dans cet endroit-là, cette zone-là, que Paul se retrouve ici maintenant à Tyr. Hein. Et tous ceux qui ont été persécutés à Jérusalem, on se rappelle quand la persécution a commencé avec la mort d'Étienne. Alors, ces personnes-là, ces frères-là, ces disciples-là qui ont quitté Jérusalem pour fuir la persécution, se sont établis, le texte nous dit, ils sont allés à Antioche, dans l'île de Chypre. Ils sont allés jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre. Et à Antioche, qu'est-ce qu'ils faisaient rendus là? Ils ont annoncé la parole de Dieu. Ils ont annoncé la bonne nouvelle, mais c'était seulement aux Juifs, n'est-ce pas? Mais le texte continue pour nous dire, il y avait d'autres hommes, quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus aussi à Antioche, nous disons, et s'adressèrent eux aux Grecs. Alors, on voit que certains hommes qui se sont adressés aux Juifs et d'autres hommes qui sont venus d'Antioche qui se sont adressés aux Grecs. Et puis, comme ça, on peut voir que la majorité de la population, les différentes couches ethniques de la société d'alors, de ce coin-là, a été évangélisé. Et le texte nous dit qu'ils annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur et la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Fait que à Tyr, Paul cherche des hommes. Effectivement, il trouve des disciples. Mais ces disciples-là étaient formés, ces chrétiens-là, cette église-là a été formée par les frères qui ont été persécutés, hein, qui sont fuis et Jérusalem et qui se sont établis en Phénicie. Et comme ça, ils ont évangélisé, ils vont commencer à évangéliser et l'église de Tyr a pris naissance. Mais c'est quand même intéressant de voir, hein, de se rappeler que le grand rôle que Paul a joué dans la persécution. Hein. Paul voulait empêcher, coûte que coûte, que la bonne nouvelle de Jésus-Christ se propage, n'est-ce pas? Il voulait pas que les chrétiens, que les gens se convertissent. Et nous connaissons l'apôtre Paul, nous connaissons son histoire. Il est parti à la persécution de tous les chrétiens et il le faisait avec zèle. Mais maintenant, Paul se retrouve dans cette autre ville où il y a d'autres chrétiens, et cet apôtre Paul, sans le savoir, et la persécution qu'il a instiguée a poussé les frères à se rendre jusqu'à Tyr pour, et rendu là, ils ont commencé à l'œuvre, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce que Paul ne voulait pas que les chrétiens fassent à Jérusalem, lui, il a donné l'opportunité. de faire cette œuvre-là attire. Et comme nous pouvons le voir, c'est le Saint-Esprit qui agit et l'Église de Jésus-Christ et prend naissance, attire, malgré les persécutions qui sévissaient à Jérusalem. On voit le plan de Dieu, on voit encore le Saint-Esprit qui bâtit son Église et de toutes les façons. Il choisit des hommes, les occasions, il les permet pour que son œuvre puisse avancer. Alors l'apôtre Paul se trouve maintenant dans cette ville-là avec d'autres chrétiens et c'est merveilleux de le voir en train d'encourager l'ancien persécuteur qui est en train d'encourager, exhorter et communier avec ces personnes-là à Tyre. Et cela va durer jusqu'à 7 jours. Mais au bout de 7 jours, nous savons que le bateau va continuer parce que Paul, sa destination, nous disons, c'est Jérusalem. Et le bateau, le navire qui a fait escale à Tyre, il va continuer sa route. Et nous voyons que pendant ce séjour-là, les chrétiens de Tyre, ils ont ouvert leurs portes. Ils ont ouvert la porte de leur cœur, la porte de leur maison pour accueillir ces frères-là, Paul et ses compagnons, et qu'ils ne connaissaient peut-être pas. Et ils ont pu jouir quand même d'une communion fraternelle incroyable, sincère, au point que ces frères-là ne voulaient pas que Paul parte. En fait, ils voulaient le protéger parce qu'ils avaient appris qu'il y avait le sort qui attendait Paul, que beaucoup de persécutions attendaient Paul à Jérusalem. Alors leur amour leur forçait à protéger Paul et ils ne voulaient pas que Paul parte. Et dans le verset 4, il y a une phrase qui fait couler peut-être beaucoup de questions, qui fait soulever beaucoup de questions. C'est la phrase qui dit « Les disciples poussés par l'Esprit disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem ». Alors la question qui se pose souvent, c'est que est-ce que Paul a commis une désobéissance en vouloir aller à Jérusalem et en allant à Jérusalem, parce que le texte nous dit que les disciples étaient poussés par l'Esprit et ils décourageaient, ils disaient à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Et est-ce que ça veut dire que Paul a été désobéissant face à la volonté du Saint-Esprit? Je ne le pense pas. Et je pense que si nous jetons un coup d'œil dans d'autres textes, dans les Actes des Apôtres, nous allons conclure aussi que Paul n'a pas désobéi au Saint-Esprit. Premièrement, il ne l'a jamais fait. Dans tous les récits que nous avons de Luc, Paul était toujours obéissant, à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 16, versets 6 à 7, on voit Paul, Silas et Timothée qui ont été empêchés par l'Esprit d'annoncer la parole en Asie. Dans cette occasion-là, le Saint-Esprit a empêché Paul, Silas et Timothée d'annoncer la parole. La Bible ne dit pas pourquoi, mais c'est clair que dans le texte, il nous est dit que l'Esprit a empêché Paul et ses frères d'aller annoncer la parole dans Asie. Alors, ces frères-là, dans le chapitre 16, ils se sont dirigés vers la Galatie. Et ils voulèrent quand même aller évangéliser avec ce feu-là qu'ils avaient en eux, de partager la bonne nouvelle. Ils voulaient quand même aller en Bithynie pour annoncer la bonne nouvelle qu'ils n'ont pas pu annoncer dans l'Asie. Mais encore là, le Saint-Esprit nous dit le texte, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Fait que dans ce texte-là, dans cette situation-là, on voit que le Saint-Esprit clairement empêche à ces serviteurs-là d'aller prêcher tel en tel ou tel endroit. Mais cependant, dans Actes chapitre 20, que nous avons vu la semaine passée, dans le verset 23, le Saint-Esprit lui-même a averti Paul des liens qui l'attendaient. Le Saint-Esprit lui dit qu'il y a des liens qui l'attendaient à Jérusalem. Mais il n'y avait pas d'interdiction. Le Saint-Esprit n'a pas empêché, n'a pas dit à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Bien qu'il y avait des persécutions qui l'attendaient, des souffrances qui l'attendaient à Jérusalem, mais le Saint-Esprit ne l'a pas empêché, il ne l'a pas interdit d'y aller. Et plus bas dans le verset 24, dans le chapitre 20, si on revient là, pour Paul, ce voyage qu'il veut effectuer à Jérusalem, pour lui, il l'accomplit dans le cadre de son ministère qu'il a reçu du Seigneur, n'est-ce pas? Et si Paul était convaincu que se rendre à Jérusalem était dans le plan de Dieu, comment est-ce que le Saint-Esprit pourrait l'empêcher d'accomplir ce que le Seigneur lui a mis à cœur, ce que le Seigneur lui a donné comme ministère? Fait que on voit que, clairement qu'il n'y avait pas de conflit. Là. Il ne peut pas avoir de conflit. Le Saint-Esprit ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Et on peut dire sincèrement, clairement, qu'il n'y avait pas désobéissance de la part de Paul. Et plus tard, dans Actes, chapitre 23, verset 1er, quand Paul est comparu de Sanhédrin, devant le Sanhédrin, il déclare comme ça, il dit, « C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Fait que Paul, il a aucun doute que ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, c'est dans la volonté de Dieu. Et il ne contredit pas à la volonté de Dieu. Alors, si tout cela c'est vrai, comment est-ce qu'on peut comprendre que le texte nous dit que l'Esprit les a poussés, les frères attirent, poussés par l'Esprit, et on dit à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Ma compréhension sur ce segment de texte, c'est que l'Esprit a révélé ses disciples. Oui, l'Esprit se révèle, il révèle des plans à ses disciples, il révèle à ses disciples que Paul va souffrir, qu'il y a un sort qui l'attend à Jérusalem, et c'est qu'il souffre, qu'il va souffrir à Jérusalem. Et dans leur affection, c'est ça ma compréhension, dans leur affection de cette révélation que Dieu leur donne, de ce qui attend Paul à Jérusalem, pris dans leur affection protectrice pour l'apôtre Paul, bien, il exhortait à ne pas y aller, pour qu'il n'y ait pas à souffrir. Je pense que c'est ça la réaction de tout humain, c'est une réaction totalement humaine. Et plus tard, nous l'avons lu tantôt, nous allons le regarder encore, dans les frères à Césarée ont eu la même réaction. Quand le prophète Agabus va révéler que Paul va être lié et mis à mort, et persécuté, etc., toutes les souffrances qui l'attendent à Jérusalem, et le prophète va dire la même chose. Et nous allons voir, nous voyons les frères là-bas en Césarée qui ont la même réaction, qui vont essayer d'empêcher Paul d'aller à Jérusalem pour ne pas avoir à souffrir. Ça, c'est une réaction humaine et on le comprend. Et peut-être que nous, dans une situation comme ça, avec quelqu'un qu'on aime et qu'on sait qu'il y a des tribulations, des persécutions, même des dangers de mort qui l'attendent, on aurait peut-être essayé de les décourager. Même Pierre, si on se rappelle de l'apôtre Pierre, quand le Seigneur Jésus a révélé à Pierre et à ses disciples qu'il allait souffrir beaucoup et qu'il serait même mis à mort. Et Pierre le reprend, nous dit le texte dans Marc chapitre 8. Pierre reprend Jésus. Imaginez Pierre qui reprend Jésus dans ce qu'il déclare. Quel orgueil! Mais ça, c'est l'homme, ça, c'est là. Et quelle est la réponse de Jésus-Christ face à cela, cette réaction de Pierre? Il lui dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. » L'homme ne peut pas concevoir les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. C'est ce que Jésus-Christ déclare à Pierre. Pierre ne pouvait pas concevoir les choses de Dieu. Pour nous, les hommes, tout doit aller comme sur des roulettes, n'est-ce pas? Pas de souffrance, tout doit être beau. Mais dans le plan de Dieu, ce n'est pas comme ça. Nous avons des pensées humaines. Et je pense que c'est exactement ce qui est arrivé à ces frères-là, à Tyr, qui ont voulu protéger l'apôtre Paul pour ne pas se rendre à Jérusalem afin qu'il ne souffre pas sous la main des Juifs. Mais on connaît l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été maintes fois averti, n'est-ce pas? Paul voyait déjà sa délivrance de toutes ces souffrances qui lui ont été annoncées. Et Paul était vraiment prêt à les confronter. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur les promesses du Seigneur. Et le Seigneur lui a rappelé en plusieurs occasions, et une fois, avant même, quand il était rendu à Corinthe, dans le chapitre 18, versets 9 à 10, le Seigneur lui dit que personne ne mettra la main sur lui. Et Dieu a accompli, Dieu a gardé sa promesse. Et on voit l'apôtre Paul qui est resté un an et 6 mois à Corinthe enseignant la parole de Dieu. Et personne n'a pu mettre la main sur lui. Alors Paul a cette expérience-là de la promesse de Dieu qui tient, d'un Dieu qui tient parole. Malgré les souffrances, Dieu va le préserver. Et comme ça, Paul, il continue, il est déterminé, malgré l'inquiétude de ses amis, attire. Paul est déterminé, il ne se laisse pas gagner ni par les persécutions, par le rappel des persécutions, ni par la supplication des frères qui l'ont supplié de ne pas aller, ni par la peur de la souffrance. Il veut poursuivre son objectif qui est de se rendre à Jérusalem. Et ses frères attirent, ils sont en paix avec sa décision. Les frères le laissent partir. Et je trouve que c'est une bonne relation qu'ils ont développée, là, une relation d'amour, on le voit, que tous accompagnèrent l'apôtre Paul et ses amis. Quand vient le temps, quand Paul a décidé de se rendre quand même à Jérusalem, et tout le monde est en paix avec cela, et nous voyons toute la famille d'église là. Nous voyons l'église, en général, le texte ne nous parle pas d'église, mais on sait que l'église, c'est l'ensemble de ces croyants-là. Et le texte nous dit tous accompagnèrent, nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Tout ça, c'est une belle image de l'unité qui régnait dans l'église. Cette unité-là commençait au milieu même des familles qui sont unies, un papa, une maman qui ont le même objectif d'aller conduire ces visiteurs-là, ces hommes de Dieu qu'ils ont reçus chez eux, pour les conduire jusque hors de la ville, parce que le port de Tyr n'est pas au milieu de la ville. Fait qu'il fallait qu'ils quittent leur maison et aller jusque sur le rivage pour embarquer dans le navire. Et on voit toute la famille, papa, maman, les enfants qui sont peut-être qui ne connaissent pas ces messieurs-là qui viennent d'arriver chez eux. On voit l'unité au niveau de cette famille-là que nous a présenté les familles, le papa, la maman, les femmes, les enfants qui accompagnèrent l'apôtre Paul et ses compagnons jusqu'au rivage. Il l'a rendu là. Ils ont prié sur le rivage. Ils ont prié et les disciples, on parle des chrétiens qui sont à Tyr, le texte nous dit, ils sont retournés chez eux. Et les voyageurs, Paul et ses compagnons, ils ont pris le navire, ils sont rembarqués sur le navire pour se rendre de Tyr. Ils vont se rendre à une autre place. Ils vont traverser la Méditerranée pour se rendre à Ptolémaïs, où ils vont faire encore une escale d'une journée. N'est-ce pas merveilleux de voir l'amour qui réunit ces frères-là pendant son séjour à Tyr? Paul qui cherche la communion des frères, qui cherche à rencontrer les frères pour les encourager comme il fait tout le long de son troisième voyage missionnaire, et voir les chrétiens qui font preuve d'amour, d'affection profonde pour le serviteur de Dieu. Et Paul continue son voyage, et là il se rend, il traverse la Méditerranée, ils sont maintenant arrivés à Ptolémaïs, une autre ville portuaire, et puis on voit Paul, comme d'habitude, Il cherche les frères, ils en trouvent. Ils cherchent les frères, et les frères, ils les encouragent, ils les saluent, ils restent avec eux pendant une journée. Et j'imagine que ça prenait une journée pour le bateau. Ils font toujours escale d'une journée pour ne peut-être pas voyager pendant la nuit. Mais le lendemain, Paul et ses compagnons, ils prennent le navire et ils s'en vont un peu plus loin. Et cette fois-ci, ils se rendent à Césarée. Arrivés à Césarée, et le texte nous dit, ils sont entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Philippe, mais le texte nous dit beaucoup de choses de ce Philippe-là. Il dit qu'il est l'évangéliste et qui était l'un des sept, et nous logeâmes chez eux. Alors, quand on parle de ce Philippe-là, c'est le Philippe qui était diacre, l'un des sept premiers diacres à l'église de Jérusalem, que nous pouvons lire dans Actes chapitre 6, verset 5, quand il y avait ce conflit-là au niveau de service dans l'Église, où Dieu a mis à cœur aux apôtres de mettre à part sept frères pour le service aux tables, qui sont les diacres, et que les serviteurs, les apôtres puissent se concentrer sur la parole et l'enseignement. Alors, ces diacres-là sont élus, et parmi eux, Philippe se retrouve parmi ces diacres-là à l'église de Jérusalem. Alors, quand il parle, l'un des sept, c'est ce que cela veut dire, c'est l'un des sept diacres qui ont été élus à l'église, qui étaient au service de l'église de Jérusalem, dans Actes chapitre 6, verset 5. Ils disent aussi que Philippe était un évangéliste. Et après son service, tout le long de son service à l'église de Jérusalem, on le voit à Samarie un peu plus tard, dans le chapitre 8, verset 5. Il est à Samarie, Philippe, et il prêche, le diacre Philippe, rempli du Saint-Esprit, comme c'était le prérequis pour être un diacre. Il est à Samarie et il prêche Christ, dans chapitre 8, verset 5. Plus tard, on le voit, dans le même chapitre, c'est lui qui est envoyé par le Saint-Esprit sur le chemin de Jérusalem à Gaza pour rencontrer l'eunuque. On le voit dans le chapitre 8, verset 26. Et plus tard, après le baptême de l'eunuque, c'est ce même Philippe-là que l'ange a transporté. Il est arrivé, nous dit le texte, et puis il a disparu après avoir... l'ange a été enlevé, je veux dire, Philippe a été enlevé. Et puis, nous savons que l'eunuque a continué son chemin. Et lui, il est allé à Césarée. Philippe est allé à Césarée. Et il en a profité pour évangéliser, nous dit le texte, toutes les villes par lesquelles il passait. On voit vraiment le cœur de l'évangéliste dans Philippe, n'est-ce pas? C'est là qu'ils sont arrivés, quand ils sont arrivés à Césarée. Et c'est exactement là que Philippe s'était établi. Les compagnons de Paul et ses compagnons, trouvent un hébergement chez Philippe. Le texte nous dit que Philippe, il était à Césarée, oui. Mais il faut se rappeler aussi que, en entrant dans la maison de Philippe, je me demande qu'est-ce que Paul a senti. Et quand je lis ça, ça m'interpelle, ça me met dans un contexte un petit peu spécial quand je pense à tout ça. Et juste sachant que maintenant, l'apôtre Paul est dans la maison de Philippe et ça me rappelle la transformation puissante que peut accomplir l'Évangile dans le cœur de quelqu'un. Savez-vous, vous vous rappelez que quelques années auparavant, Philippe n'était certainement pas l'ami de Paul, n'est-ce pas? À cette époque-là, Philippe était considéré peut-être comme l'ennemi juré de Paul. Il n'était pas encore l'apôtre. Et j'aurais de la misère à voir, moi, en tant qu'humain, que Philippe lui aurait ouvert sa demeure. Hein. Quelqu'un qui en voulait à sa vie. Et si vous vous rappelez que Étienne, qui a été mis à mort, Étienne était le collaborateur, c'était le co-ouvrier de Philippe à l'église de Jérusalem. Ils étaient les deux anciens, on pourrait dire, des diacres qui ont été choisis et qui servaient dans l'église de Jérusalem. Puis Étienne a été mis à mort, a été lapidé à mort, et cette tuerie, ce crime affreux a été approuvé par l'apôtre Paul. Comment est-ce que, en tant qu'humain, on peut concevoir cela? L'apôtre Paul qui vient passer du temps dans la maison de son ancien ennemi. Et comprendre comment est-ce que Philippe lui-même peut plus l'accueillir. Et ensemble, ils vont annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus-Christ. Waouh, n'est-ce pas merveilleux? Comment est-ce que Dieu peut travailler, Dieu peut transformer le cœur de quelqu'un comme Paul, maintenant pour l'appeler à son ministère, à son service, et accorder le pardon à ce frère Philippe pour oublier tout le passé qu'il y avait entre lui et Paul. Et maintenant, pour que la main dans la main, ils peuvent contribuer à l'avancement du royaume de Christ. Le Saint-Esprit, en arrière-plan, utilise l'un et l'autre pour bâtir son Église, l'Église de Jésus-Christ. Heureusement, sommes-nous capables maintenant de pardonner un frère ou une sœur qui nous a fait du mal? Humainement parlant, on ne peut pas. Mais par la grâce de Dieu, nous le pouvons. Et Dieu nous l'ordonne. Et si Dieu nous l'ordonne, nous donne les moyens pour le faire. Grandissons, croissons dans le pardon. Croissons dans l'amour, comme nous voyons dans ces textes-là, dans l'amour fraternel. Croissons dans l'évangélisation pour le royaume. Le texte nous dit que Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Ça nous fait penser peut-être que les filles, ces filles-là, ont peut-être été mises à part pour ce ministère de prophétie qu'elles exerçaient. On ne sait pas. Ou bien qu'elles auraient fait des vœux pour se mettre au service du Seigneur. Mais rien dans le texte ne nous laisse croire cela. Et il n'y a rien dans le texte non plus qui nous fait comprendre que ces filles-là avaient un rôle d'enseignante dans l'assemblée qui est à Césarée. Et ce ne sont pas non plus ces filles-là qui ont prophétisé sur Paul en cette occasion-là. C'est plutôt un prophète Agabus qui annonce de façon très imagée, n'est-ce pas, l'arrestation de Paul à Jérusalem par les Juifs. Et cette façon imagée avec la ceinture et tout cela que nous voyons dans ce texte-là, il y a d'autres textes dans l'Ancien Testament qui sont similaires, qui nous donnent des exemples comme ça. Nous avons vu dans notre étude dans Jérémie, ceux-là qui l'ont suivi, chapitre 13, verset 1 à 11, comment est-ce que Jérémie a donné un message comme ça, a prophétisé, et un message par ces mêmes gestes que nous voyons ici, hein, des gestes similaires. Alors, c'est une façon de présenter le message qui était très, très commune. Et comme le prophète Agabus va le dire, avec cette façon imagée, avec la ceinture de Paul, il va déclarer que le Saint-Esprit dit que cet homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Alors, le prophète vient de confirmer ce que Paul savait déjà, n'est-ce pas? En maintes occasions, Dieu lui avait dit, de l'avertir qu'il allait souffrir à Jérusalem. Et comme les frères de Tyr, la réaction des frères des chrétiens de Césarée, c'est qu'ils ne voulaient pas que Paul s'en aille à Jérusalem. Le verset 12 nous le dit. Quand nous entendîmes cela, ça veut dire que quand ils ont entendu que Paul allait être arrêté, il va être lié, et de la même manière comme il a lié la ceinture, et le texte nous dit que nous et ceux de l'endroit, les locaux de Césarée, nous priâmes Paul. Ils ont insisté. Ils ont prié Paul de ne pas se rendre à Jérusalem, de ne pas monter à Jérusalem. C'est la même réaction, n'est-ce pas, quand on fait face à des difficultés, on prévoit une difficulté, on prévoit des souffrances en tant qu'humain, c'est notre réaction. Et nous l'avons vu tantôt, Dieu utilise ces opportunités-là, ces occasions-là, pour fortifier son Église, pour les puissent vaquer à la prière. Et je remercie toute l'Église, heureusement, qui, ces dernières semaines, ont prié pour la guérison de notre fille Mandy. Merci. Et que Dieu continue à nous faire croître en tant qu'Église dans l'amour fraternel. Mais Dieu permet certaines souffrances dans nos vies pour rallier son Église, pour que nous puissions dépendre de plus en plus sur le Seigneur. Et c'est pour notre bien. Merci Seigneur pour ton plan merveilleux. Paul ne se laisse pas dissuader. Non, Paul est déterminé. Il veut se rendre à Jérusalem. Et les frères, une fois de plus, ici à Césarée, ils n'insistent pas, comme nous dit le verset 14, comme ils ne se laissaient pas persuader. Nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Paul n'est pas découragé, bien que les chrétiens de Césarée sont dévastés par cette nouvelle. Il doit aller à Jérusalem pour accomplir le plan de son maître. Même s'il tente, les frères tentent de le décourager, il va y aller. Et une fois de plus, on voit l'engagement de Paul envers son Dieu. Son engagement envers son Dieu est plus fort que ces mauvaises nouvelles qu'il a entendues et qu'il vient d'apprendre une fois de plus, n'est-ce pas? Paul ajoute qu'il est prêt même à être lié et encore à être mis à mort, à mourir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel engagement, quel homme de parole. Que Dieu puisse utiliser cet exemple de la vie de l'apôtre Paul pour que nous puissions nous engager, pour tenir promesse à ce que, quand nos promesses envers l'Éternel, envers notre Dieu, quand nous nous engageons dans un service quelconque, pour qu'on soit fidèle, peu importe ce qu'on pense qui va arriver, Dieu est là, Dieu est en contrôle. Si on est dans sa volonté, on n'a rien à craindre. Malgré leur affection sincère, leur affection profonde, leur inquiétude pour Paul, ces frères-là, ils se sont soumis à la décision de l'apôtre Paul, de leur ami, et ils s'en remettent à la volonté de Dieu. Que le Seigneur soit le directeur, que le Seigneur, dans sa volonté, accomplisse ses desseins. Que la volonté du Seigneur se fasse, quoi qu'il arrive à l'apôtre Paul. Peu importe la crise, le chrétien trouve sa force et sa consolation dans sa soumission à la volonté du Seigneur. Tout ce qui nous arrive, sachant que Dieu est en contrôle. Crise financière, crise sanitaire, peu importe, crise familiale. Le chrétien trouve sa force et sa consolation dans la soumission, dans sa soumission à la volonté du Seigneur. C'est un grand exemple que nous avons vu là, un exemple de conviction de l'appel qu'il a de son maître. Et on voit son engagement courageux à la mission suprême qu'il a reçue. Il a reçu plusieurs avertissements, n'est-ce pas, quant aux épreuves et les persécutions qui l'attendaient à Jérusalem. Mais malgré tout, Paul se dirige droit au but qu'il s'est fixé, n'est-ce pas? Il veut rentrer à Jérusalem, c'est ça qui le préoccupe, c'est ce qui va arriver. Il va aller à Jérusalem pour accomplir le travail de son maître. Quel exemple d'amour nous pouvons voir dans ces frères-là, soit à Tyr, soit dans d'autres contrées, à Césarée. On les voit, un exemple d'amour sincère, un exemple d'hospitalité entre les chrétiens. Ils ne les connaissent pas. Ils ouvrent leurs portes de leur maison, les accueillent pendant 7 jours, pendant une journée, pendant 2 jours. Quel exemple d'amour et d'hospitalité que Dieu nous donne, que Dieu nous donne à travers ce texte, que nous puissions les appliquer dans notre vie, dans notre quotidien. Qu'on puisse s'accueillir les uns les autres, nous supporter les uns les autres, nous encourager les uns les autres. Et c'est ce que Dieu veut pour son Église, une Église où il règne l'amour, où les gens du monde puissent voir l'amour qui est dégagé dans les relations des chrétiens. Christ bâtit son Église, il en est le chef. Et c'est lui, c'est Christ, c'est grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, cette Église-là, locale et universelle, cette Église, ce corps bien coordonné et formant un assemblage solide, tire son accroissement. L'Église de Dieu peut croître seulement dans la force qu'il va puiser en son Seigneur, Jésus-Christ, et selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et l'Église s'édifie dans la charité. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à rester attachés les uns aux autres, et d'abord au Seigneur, et de croître dans l'amour. Amen.